Encore une fois, je vous demanderai de réciter, puisque nous nous imprégnons de cette parole, le texte clé ou thème de Romains 11, versets 33 à 35. Ô profondeur des richesses et de la sagesse, que ce Amen. Dieu notre Père, une fois encore nous te bénissons de savoir que tes yeux sont sur nous et que ton cœur est heureux de nous voir rassemblés dans le nom de ton Fils bien-aimé en qui tu as trouvé ton plaisir et de voir qu'il y a encore sur la terre des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui savent mettre un temps de côté pour apprendre à l'école de Jésus à sonder les Écritures, comme lui-même l'enseignait. Sondez les Écritures, car c'est en elles que vous estimez avoir la vie éternelle. Et il nous a montré que c'était par cette connaissance de l'Écriture que nous pouvions non seulement résister à la tentation, mais vaincre la tentation, en triompher et éviter de tomber dans les pièges du diable. Cet adversaire dont tu nous as parlé plusieurs fois au cours de cette semaine et qui est une réalité, alors qu'aujourd'hui, tant d'hommes, tant de femmes le nient, tandis qu'une multitude d'autres le consulte. Nous savons que ce culte du diable se répand partout, tandis que dans les milieux souvent dits chrétiens, on n'y croit plus. Ô Dieu notre Père, donne-nous de rester sur le terrain solide de l'Écriture. Tu sais que nous ne sommes pas des bibliolâtres, mais nous croyons que ce livre nous révèle ta parole et que ta parole est l'expression de ta pensée et que connaître la pensée de Dieu, c'est vraiment être éclairé dans tous les domaines. Et nous voulons te demander que ta parole devienne réellement dans la vie pratique une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier. C'est la grâce que nous te demandons. Et sachant combien nous sommes incapables de dire quelque chose de juste et de vrai par nous-mêmes, nous te demandons que tu te serves de nous pour être seulement un canal à boucher à ton trône de grâce et que des paroles de grâce nous soient données pour qu'il y ait une bénédiction spéciale ce soir. Nous savons bien que Satan cherche à retenir les âmes, à voiler la vérité que tu voudrais leur faire découvrir. Mais Seigneur, qu'elles ne se découragent pas, tu vas déchirer le voile et tu vas faire briller les splendeurs de ta face sur ceux qui te cherchent. Car quand on se tourne vers Jésus, le voile est ôté. Oh, que nous puissions réaliser que Jésus est au milieu de nous, que ce ne soit pas simplement une ritournelle, le souvenir d'un cantique, mais que ce soit la réalité. Présent, Seigneur Jésus. Amen. Nous voici au soir du 21 juillet et toujours à la poursuite de ce thème « Connais-toi toi-même », à la lumière non pas de la philosophie grecque comme nous le disions, mais à la lumière du livre de Job, de cet arabe qui vivait au temps des patriarches, au pays des hommes sans Bible, et avant la proclamation de la loi de Moïse. Cet homme qui avait gardé certaines lumières qui avaient été données à l'homme dès le commencement. Et c'est quand même merveilleux de penser, je le répète, que Dieu, en toute nation, s'était laissé des témoins au sein même de l'idolâtrie. Dieu a toujours eu, en toute époque, des témoins. Et alors que le péché n'était pas encore mis en compte, comme le dit Paul aux Romains, eh bien, il y avait cette notion du bien et du mal. Et nous avons vu que Job, sans avoir un code, sans avoir la connaissance des 10 commandements, eh bien, il avait dans son cœur la loi naturelle. Et il suivait son Créateur. Sa connaissance de Dieu était essentiellement celle du Créateur, celle du Tout-Puissant qui allait se révéler justement à Abraham. Eh bien, que le Seigneur nous ouvre les oreilles, les yeux, l'intelligence, le cœur et touche aussi notre conscience, et que le destin bienveillant qu'il avait pour cette soirée puisse être accompli en chacun de nous. Ce sont les chapitres 18 et 19 de Job qui contiennent le deuxième discours de Bildad et la réponse de Job qui nous occuperont à la fin de cette soirée. Nous avons abordé ce matin donc le deuxième cycle ou la deuxième série de discussions, de discours du livre de Job en survolant le discours d'Eliphaz qui était le plus âgé des amis de Job et dont le nom signifie, comme je vous l'ai dit, « essai de Dieu ». Répondant au dernier discours de Job, Eliphaz, qui était venu pour consoler un ami affligé, se fait maintenant accusateur. Pour Eliphaz, Job, par son attitude, par ses propres paroles, est devenu un ennemi de la religion et de la vraie piété. Eliphaz a été choqué par les prétentions de Job. Il ne se rend pas compte du fait que Job ne parle pas en académicien érudit et stérile, mais en vrai martyr de sa propre mort vivante. Au fond, quand vous êtes en train de mourir et que vous voyez toute cette décrépitude du corps, vous avez eu des contacts avec des mourants, vous avez eu des contacts avec des gens qui savent où la maladie les mène et qui voient ces progrès et qui sont conscients de cela. Eh bien, mes amis, ce n'est pas drôle et on ne va pas leur parler de n'importe quelle manière. Et on comprend qu'il y a des moments où ces gens peuvent avoir des paroles peut-être excessives, même s'ils sont croyants. Leur état physique aussi joue vraiment un rôle. Alors, Eliphaz aurait dû comprendre cela, que, comme nous l'avons lu au chapitre 6, les paroles d'un désespéré ne sont faites que pour le vent. Il n'y a pas à s'y arrêter et puis à faire une grande figure parce que telle personne qui était pourtant une brave chrétienne se laisse aller à quelques doutes peut-être. Il faut être là pour la soutenir, pour l'encourager. Mais si immédiatement vous vous placez en accusateur, eh bien vous mettez la tête sous l'eau à cette personne qui est déjà en train de se noyer. Ce n'est pas ce que fait le Seigneur. En traversant la flamme, il ne veut pas que nous soyons brûlés. Et même si nous devons passer par des grandes eaux et des rivières profondes, il nous dit qu'elles ne nous submergeront pas. Mais bien aimé, si nous étions plus remplis de la parole, nous saurions que dire en face de ces détresses. Nous aurions des paroles de grâce, bien sûr assaisonnées de sel, mais nous aurions un sens affiné pour ne pas blesser davantage. Nous serions dans la main de Dieu les instruments de son cœur et non pas des gens qui parlent à tort et à travers ou qui pensent tout savoir et pouvoir tout expliquer. Et puis il y a dans le regard que vous donnez à une personne, il y a dans le ton de votre voix quelque chose que la personne peut ressentir jusqu'au plus profond d'elle-même. Il y a dans le toucher, nous avons peur de toucher. Je me souviens dans les léproseries que j'ai pu visiter, soit en Indochine en son temps, soit même à Valbonne, quand en France, quand nous avions les camps bibliques universitaires, et puis que la direction venait nous dire que les lépreux auraient voulu assister à la conférence, qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait dire non parce que on avait peur de la contagion. Non, j'ai toujours dit oui. Et alors, forcément, tout le monde passait, et puis les lépreux étaient derrière, puis passaient les derniers. Alors, aux autres, j'avais donné la main, parce que nous aimons avoir un contact. C'est aussi quand vous entrez le matin, vous savez, c'est pas pour rigoler que je fais ça. Mais on ne se voit pas tellement, moi j'ai beaucoup de responsabilités aussi. Mais j'aime avoir un contact personnel avec chacun de vous. C'est rien d'autre. C'est la main de mon cœur qui vous est donnée, puis c'est tout. C'est pas une forme. Mais je me dis comme ça, je peux vous regarder dans les yeux, puis si vous les détournez, ben je sais un peu ce que... Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que vous détourneriez les yeux? Oui, mais on a au moins un contact. C'est cela que nous devons comprendre. Nous, nous aimons les uns les autres et nous n'avons pas peur de nous toucher quand même. Puis on sent beaucoup de choses dans une poignée de main. C'est vrai ou c'est faux? Alors, alors vous voyez, vous venez pour consoler quelqu'un, puis vous lui faites du mal, puis vous placez en accusateur. Mais c'est cela que je voudrais que vous compreniez, n'est-ce pas? C'est quelque chose de pratique, c'est pas l'histoire de Job seulement. Hein. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il donné cette histoire de Job, et pourquoi 12 ans avant l'an 2000, cette histoire a encore quelque chose d'essentiel à nous communiquer? C'est ça l'inspiration de l'écriture. Nous pouvons apprendre quelque chose qui est absolument actuel en lisant ce récit. Alors nous avons vu cela ce matin, ce fameux discours d'Éliphaz qui est le deuxième et qui n'apporte rien de plus que ce qu'il a dit dans le premier, sinon un peu plus de d'aigreur et une pointe vraiment de jugement et même, je dirais, de méchanceté. Il pose à Job plus de 12 questions. Mais pourquoi ? Eh bien, en vue de le confondre, il voudrait le confondre, il voudrait l'amener à dire « J'ai tort, c'est vrai, tu as raison, j'ai péché, il y a quelque chose dans ma vie qui n'allait pas. Et maintenant je commence à comprendre que c'est à cause de cela que j'ai eu tous ces malheurs, les 6 malheurs au moins, parce que disons qu'il y en a eu 6, puisqu'il ne peut pas encore lui dire que le 7e malheur, c'est la visite de ses amis. Hein. » Parce qu'au fond, c'est ça qui a tout déclenché. Pendant 7 jours, on le regarde, on le contemple, puis on lui dit pas une parole. Alors, mettez-vous un peu dans la peau de Job, et puis maintenant donnez à Job un autre nom. Voyez, dans vos connaissances peut-être. Donnez un nom autre que celui de Job pour que vous vous sentiez concerné. Souvenez-vous peut-être d'une visite que vous deviez faire ou que vous allez faire et il y aura un changement. Quelque chose doit changer dans nos relations de chrétiennes. Il nous faut un autre contact que celui nous avons. Et ce ne sont pas des visites de fonctionnaires, de gens attitrés pour faire simplement de la cure d'âme, ou employer l'autre nom que vous voulez, peu m'importe, n'est-ce pas? Mais ça doit être vrai, nos relations. Et je dois d'abord être en contact avec le Seigneur pour pouvoir être en contact avec les âmes. Car si j'ai été à l'école du Seigneur, je sais qu'il était doux et humble de cœur. Et je sais qu'il ne commençait pas à faire la morale aux prostituées et aux pécheurs qui s'approchaient de lui pour l'entendre. Mais qu'en revanche, aux gens religieux, eh bien, il n'y allait pas par quatre chemins. C'est vrai ou c'est faux? Disait le chapitre 23 de Matthieu. Aux pharisiens, il les traite de il les traite de menteurs, d'aveugles, de race de vipères, de serpents. Après ça, vous pouvez bien penser qu'on va le crucifier. C'est pas ces gens-là qui vont le soutenir. Il en a trop dit. Mais quand il est en présence des âmes qui se débattent dans les difficultés, dans la faiblesse de la chair, vous voyez toute sa compassion. C'est quelque chose de merveilleux. Il, avant même de guérir, n'est-ce pas, il prend sur lui la souffrance. C'est là vraiment, il a porté nos maladies. C'est dans sa vie qu'il portait nos maladies. Il les guérissait, mais avant, il les prenait, il les portait. Il entrait en sympathie avec le malade, avec celui qui s'attendait à recevoir quelque chose de Jésus. Il entrait en sympathie avec lui. Il lui posait des questions. Que veux-tu que je te fasse? Il y avait une relation qui était établie. Il ne faisait pas que passer, mais il faisait du bien. Allant de lieu en lieu, faisant du bien. Et délivrant, délivrant. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de délivrance. Mais combien peu il y en a de réels, délivrant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. C'était cela le ministère de Jésus. Alors, nous sommes à l'école de Jésus et qui nous permet de lire le livre de Job dans ce sens que nous trouvons dans le chapitre 24 de Matthieu. Quand Jésus fut ressuscité, il expliquait dans les Écritures aux deux disciples d'Emmaüs toutes les choses qui le concernaient. Et je veux être à l'écoute de ce que peut me dire mon maître et sur le livre de Job et ce qu'il veut m'enseigner par cette histoire qui est une histoire vraiment sainte. Le Seigneur n'a pas été dur avec les âmes. Il leur a dit la vérité. Il a toujours reconnu quelque chose qui pouvait être juste dans ce qui lui était dit. Nous, nous voyons tout de suite ce qui manque. Hein. À la femme samaritaine, il lui dit, quand elle lui dit « Je n'ai pas de mari », il ne dit pas « menteuse ». Je te connais, je sais toute ton histoire. Il lui dit « En cela, tu as dit vrai. » Mais celui que tu as n'est pas ton mari. C'est cette délicatesse que vous trouvez déjà dans Job, qui, lorsque sa femme lui dit « Maudit Dieu est mort », il lui dit « Pas que tu es folle. » Tu parles comme parlerait une insensée. Il a ce doigté. Eh bien, c'est cela que nous devons saisir et que nous devons comprendre pour avoir une attitude qui sera bénie auprès des âmes. Et quand il entend un païen qui lui dit « Écoute, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement une parole et mon fils sera guéri, ou mon serviteur sera guéri. » Eh bien, Jésus éclate. Il l'admira. Ben, on n'est pas prêt d'admirer un païen, nous autres. Hein. On n'est pas prêt à cela. Hein. Il l'admira sans réserve. Nous aurions dit « Oui, mais... Hein. » Eh bien... Jésus l'admira, il dit, je n'ai pas trouvé en Israël une si grande foi. Et avec la Cananéenne qu'il a éprouvée aussi, et qui n'a pas droit aux bénédictions d'Israël, le Seigneur agit de même. Ou même à un docteur de la loi qui a fait une bonne réponse, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tandis que nous aurions dit, oui, mais tu n'y es pas du tout, parce que n'y es pas loin, hein, presque sauvé, hein, mais ce n'est pas du tout l'être. Nous avons besoin, je crois, de tout réapprendre et de savoir respecter le cheminement de Dieu, de l'Esprit, dans les âmes, et je reviens à cette belle image d'Ézéchiel, l'eau qui vous monte aux chevilles des pieds, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, et puis ensuite, elle vous porte. Hein. Vous nagez, vous êtes dans cet élément. Mais le Seigneur a de la patience avec nous, et il nous redit souvent les mêmes choses, il nous les souligne, il ne s'énerve pas, il ne se lasse pas de nous, et il ne nous trouve pas tannant, il n'a que ce désir de nous aider et de nous faire comprendre sa vérité. Pour cet ami Eliphaz, on a vu que Job s'était lui-même condamné par ses paroles. Alors, il n'avait plus même besoin de le condamner lui-même. Hein. Tu t'es condamné par tes paroles, c'est ce que nous avons vu ce matin. Et la deuxième partie de ce discours était consacrée par Eliphaz à la destinée du méchant. Le méchant, c'est l'homme qui marche sans frein, sans loi. Et pour Eliphaz, au fond, Job est un méchant. Job doit comprendre, oui, que ce méchant, au fond, c'est lui. C'est encourageant. Et que s'il continue de mettre en avant ses orgueilleuses prétentions à être juste, pur, irréprochable, eh bien, oui, il ne fait que confirmer qu'il est un méchant. Puis nous avons parcouru les chapitres 16 et 17 ce matin, la réponse de Job, et nous avons vu comment Job a réagi à ce second discours. Pour lui, ses amis, eh bien, il les appelle des consolateurs fâcheux, et il leur dit que lui, en tout cas, il agirait tout autrement s'il était à leur place. Et une fois de plus, il expose sa douleur. Et nous avons vu que certains traits de la douleur de Job faisaient penser à cette douleur infiniment plus grande qu'a connue le Seigneur Jésus l'homme de douleur par excellence. Ésaïe 53. Lui qui avait su justement entrer en sympathie avec tous les affligés qu'il rencontrait et qu'il guérissait. Il a été l'homme de douleur parce qu'il prenait les douleurs, la douleur des autres sur lui. C'est ce qui nous manque, nous. Nous ne nous mettons pas dans la peau des autres. Or, Jésus nous a donné cet exemple. Pour le Fils de Dieu, pour se manifester au monde, il s'est incarné. Si j'ose dire ainsi, il s'est mis dans notre peau. Il est devenu un homme. Mais nous, nous sommes tellement inhumains dans nos contacts avec nos frères. Nous sommes ni divins, ni humains. Tandis que Jésus, il était humain pour comprendre la situation des faibles, il était humain, mais en même temps, il était divin pour les sortir de leur situation. C'est ça qui est merveilleux. En Jésus, j'ai un homme qui peut me comprendre parce qu'il était éprouvé en toute chose, tenté en toute chose, mais j'ai plus que cela, hein. J'ai Dieu. En lui, je reconnais Dieu qui peut me sortir de cette situation, de cet état. Tandis que les hommes peuvent peut-être bien sympathiser avec nous, nous comprendre, mais ça ne nous aide pas encore beaucoup. Il faut une main puissante pour nous délivrer. Cette main qu'a connue Pierre quand il enfonçait dans les eaux et qu'il s'écrit « Seigneur, sauve-moi !» Eh bien, la main est tendue et Pierre est sauvé de ce péril si grand dans le lac de Tibériade. Et Job sait pourtant, malgré toute cette souffrance qu'il éprouve dans les contacts avec ses amis, eh bien, il sait pourtant qu'il a un témoin dans le ciel. Alors, c'est là qu'il se réfugie. Quand il veut vraiment retrouver un peu d'espoir, eh bien, il parle de ce témoin dans les nues, ce témoin qui est dans le ciel. Et il sait que même si sa fin est proche, si Dieu n'intervient pas, et qu'il n'a plus qu'à attendre la mort, il y a quand même quelqu'un là qui voit tout cela. Mais c'est difficile, l'homme n'aime pas mourir. C'est pas, la mort ne fait pas partie de l'espérance chrétienne, on le sent bien. On n'a pas été créé pour la mort, ni pour les humiliations du sépulcre. Et il y a une résistance chez lui. Et le voilà qui s'écrit « Tous mes jours sont passés, tous mes desseins sont frustrés, les plans chéris de mon cœur. » Il avait aussi des plans, puis voilà que maintenant tout est ruiné, tout est brisé. Et pourtant il n'est pas semblable à l'homme riche de la parabole de Jésus qui disait « Mon âme, tu as beaucoup de biens pour beaucoup d'années. Hein. Repose-toi, mange, bois, fais bonne chair. » C'est pas du tout Job. La situation matérielle heureuse dans laquelle il se trouvait, n'est-ce pas, son bonheur familial ne l'avait pas rendu impie, comme c'est si souvent le cas. Il était riche pour Dieu. Et c'est vrai qu'il était riche pour Dieu. Parce que quand tout lui a été repris, il était riche pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris, que son nom soit béni. Voilà le riche pour Dieu. Et puis, quand la maladie l'a atteint, une maladie terrible, il n'attribua rien à Dieu qui fut inconvenant. Il ne pécha pas de ses lèvres. C'est quelque chose. Alors, il y a des moments où il n'en peut plus, il se voit déjà dans le tombeau qu'il appelle son père, et dans la corruption, dans la décomposition qu'il appelle sa mère et sa sœur. Le repos qu'il recherche, est-ce qu'il le trouvera dans la poussière? Voyez-vous, la fin de ce discours que nous avons vu ce matin, elle est vraiment lugubre et macabre, hein, mais on peut avoir des moments comme cela. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que nous avons vu ce matin? Ne vous inquiétez pas, s'il y a encore comme un voile pour vous, il va se déchirer. Si vous pourrez toujours les poser encore, ces questions, mais nous passons maintenant au chapitre 18e. Qui nous donne le second discours de Bildad à Job. Dans ce deuxième discours de Bildad, Job est pris vivement à partie. Au fond, le discours d'Eliphaz a encouragé Bildad à y aller fort lui aussi. Et puis, il y a quelque chose qui nous frappe. Bildad de Shua prit la parole et dit, « Quand mettrez-vous un terme à ces propos » Qu'est-ce que ça vous dit pour vous? Est-ce qu'il s'adresse à Job et à ses amis? Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ce que ses amis ont dit? Puisque là, il y a le pluriel. Ça nous frappe un peu. Là, on peut dire qu'il y a une difficulté. Quand mettrez-vous un terme à ces propos? Est-ce qu'il en a marre aussi d'entendre ses amis? Et non. Parce que ils se sont mis d'accord. Et on voit bien que le fond de son discours est en accord avec celui d'Eliphaz, comme aussi avec celui qu'a prononcé Sophar, mais il sait très bien que Job a des gens qui pensent comme lui. Ce n'est pas à un individu simplement que Bildad de Shua s'adresse, mais à tous ceux qui pensent comme Job. Quand mettriez-vous un terme à ces propos? Parce qu'il y en a qui ont quand même les mêmes pensées que Job. Ayez de l'intelligence, ensuite nous parlerons. Pourquoi sommes-nous considérés comme des bêtes? Évidemment, à un moment donné, Job a dit à ses grands savants, à ses amis, et en particulier à l'un d'eux, interroge les bêtes et elles t'instruiront. Même les bêtes savent tout ce que tu nous dis. Et vous savez, un savant qui n'est pas humble, hein, il n'aime pas, ou un homme qui croit qu'il sait quelque chose, il n'aime pas qu'on le prenne pour un âne. Il est très humilié de cela. N'est-ce pas? Quand même pas nous prendre pour des bêtes. Il n'a pas accepté, mais un vrai savant, hein, il ne se choque pas, parce qu'il dit toujours qu'à côté de tout ce qu'il ignore, ce qu'il sait, c'est presque rien. C'est ça l'humilité des grands savants. Quand vous lisez un peu certaines biographies de ces grands savants qui ont trouvé des choses fantastiques, c'était des gens humbles et petits à leurs propres yeux, qui ont découvert des lois, qui ont découvert bien des choses, et qui ont profité au monde entier, mais ces gens étaient humbles. Je pense à Pasteur et à d'autres, n'est-ce pas? C'est remarquable. Un vrai savant reconnaît ses limites. Ô toi qui te déchires dans ta colère, au fond, et lui fait remarquer que sa colère, à ces moments où Job va un peu fort, lui font au fond du mal. Là, il a peut-être raison, et il se déchire dans sa colère. Et nous aussi, bien souvent. Nous nous déchirons dans nos colères. C'est pourquoi il est dit, ne vous mettez pas en colère. Ou, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. N'allez pas jusqu'à vous déchirer, et puis que votre colère ne vous couchez pas sur, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est des choses qui sont momentanées. Ô toi qui te déchires dans ta colère, faut-il à cause de toi que la terre soit abandonnée, que le rocher se déplace? Nous pourrions revenir à l'heure où Job a parlé justement du rocher qui pouvait se déplacer. Le rocher, c'est ce qui paraît stable. Alors, au fond, Job se met en contradiction avec tout ce qui est reçu, tout ce qui est établi. Alors, il n'est plus compris. C'est ce qui arrive à beaucoup de prophètes. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de prophètes. On les a plus compris. Parce qu'ils n'étaient pas comme tout le monde. Ils ne disaient pas Shibboleth comme tout le monde. C'était pas le grand courant. Il y a toute espèce de courant aujourd'hui. Alors, si on n'est pas dans le courant, eh bien, on est incompris, on devient dangereux, on nous suspecte de toutes sortes d'hérésies, nous sommes des gens contestés. Bien oui, ben, ça arrive. Peu importe. Oui, la lumière du méchant s'éteindra. Et alors, lui aussi confirme qu'il prend Job, au fond, pour un méchant, et que ces soi-disant connaissances qu'il a mis en avant, eh bien, elles vont s'éteindre. Et la flamme qui en jaillit cessera de briller, parce qu'il est quand même d'accord qu'il y a eu une flamme qui a jailli des réflexions de Job, mais cela cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas pleins de vigueur seront à l'étroit. Son propre... Voilà, vous dites ça à un malade. Je vais raconter cette histoire de ce malade auquel on avait coupé les deux jambes et qui était mon voisin le plus proche quand j'avais 18 ans. Et le pasteur qui vient et qui veut le consoler en lui disant, mes chers amis, il marche dans les mailles. Oh, comme c'est encourageant. Vous êtes dans la peine. Eh oui, on vous a jeté dans le filet et puis vous marchez dans les mailles du filet. Vous êtes saisi au piège par le talon. Et les lacets se resserreront sur lui. Vous voyez toutes ces expressions, le filet, le lacet, les mailles. Ah, ça vous délivre, cela. On vous lit avec tout ça. Il y a ces expressions dans le texte original pour ces versets-là. N'est-ce pas? Le filet, le lacet, le ray, tout cela, n'est-ce pas, pour vous encourager. Vous allez vous en sortir. Vous êtes pris. Le cordeau pour le prendre est caché dans la terre. Vous voyez, ça ne suffit pas qu'il y ait un filet, qu'il y ait des raies, qu'il y ait le piège. Vous allez tout à coup vous encoubler là sous le cordeau qui est caché sous la terre. Et la trappe, il y a encore la trappe. Hein. Alors vraiment, vraiment, vraiment. La trappe. Et sur le sentier. C'est encourageant, c'est tout ce que vous avez sur votre sentier. C'est tout ce que je peux dire. Des terreurs l'épouvantent de toutes parts, le harcèlent par derrière. Sa vigueur. Il parle donc justement de ce qui va arriver aux méchants. Sa vigueur est atteinte par la faim. La misère est toute prête à s'écouter. Les parties de sa peau sont dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Qui c'est le premier-né de la mort? Vous avez trouvé? Ou bien c'est une oubliette? Ça pourrait, si vous isolez ce texte de son contexte, dire, ben oui, le premier-né de la mort, c'est Jésus. Mais ce n'est pas Jésus, non. Dans le contexte-là, qu'est-ce que c'est le premier-né de la mort? C'est la maladie. Et en Orient, justement, la maladie la plus horrible qui se trouvait, c'était la lèpre, n'est-ce pas? Le premier-né de la mort, c'est la maladie. Alors, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. La maladie est une conséquence du péché. Il est arraché de sa tente dans laquelle il se confiait. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Qui c'est le roi des épouvantements? C'est la mort. Le roi des terreurs. Vous voyez, il arrive, n'est-ce pas, à lui représenter de nouveau la mort, et qui est vraiment une terreur pour plusieurs dans ce monde, n'est-ce pas? Tout à coup, la mort est là. Et on a beau dire, comme Montaigne, ce n'est pas le mourir qui... Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est le mourir. Mais, vous savez, tout au fond, c'est quand même la mort. Parce que on ne sait pas ce qu'il a suivi. Même les athées, à ce moment-là, révisent certaines de leurs pensées. Je me souviens toujours ici, un athée qui était... le précepteur du prince Sihanouk, qui était le haut gouverneur du Cambodge autrefois, et je l'avais fait venir ici pour parler à nos campeurs, et je savais qu'il était athée. Alors, demander à un athée de venir nous parler, et c'était quand même formidable. Ceux qui étaient là peuvent s'en souvenir. Il a dit, je veux pas venir vous dire n'importe quoi. Pendant une longue vie, on peut avoir toute espèce de pensée. Mais quand arrive le jour où indubitablement l'idée de la mort se fixe en nous, parce que c'est cela, il y a la vieillesse et on n'échappe pas, on se met à espérer, c'était ses paroles, hein, que ceux qui croient à la vie éternelle aient raison. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Il a commencé comme ça. On se met à espérer que ceux qui croient à la vie éternelle aient raison. Pendant notre vie, au cours de notre vie, on a pu avoir toute espèce de pensée. Mais il arrive un moment où peut-être on révise un peu ce jugement. Alors, est-ce que c'est le roi des épouvantements, la mort, pour nous? Ça a pu l'être, parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 2 que, à cause de la crainte de la mort, pendant toute leur vie, les hommes sont tenus dans la servitude. La crainte de la mort pour soi, peut-être, mais aussi la crainte de la mort des autres, de ceux que l'on aime et qu'on risque de perdre. Alors on est dans la crainte dès qu'on les fait malades ou autres. Eh bien, nous avons une crainte. Mais le Seigneur est venu. Parce que quelle est la cause vraiment de la crainte de la mort? On l'a souvent désiré, parce qu'on dit, oh, ce sera le repos, j'en aurai fini, au moins si je mourais, hein, ce serait terminé. Et puis tout à coup, on tombe malade, et puis on court chez le médecin. Ça vous encourage? Oui, mais tous ne voient pas la mort comme une belle femme. Et alors pourquoi est-ce qu'on craint la mort? Mais si tout était fini par la mort, mais oui, autant, je tombe dans le néant. Ce que m'a dit un jour quelqu'un, il y a deux mois de ça, dans une conversation, il m'a dit, oh, je pensais mourir, mais je ne m'en vais pas parce que je pensais rentrer dans le néant. Mais maintenant, je commence à m'en faire un peu. Parce que comme il n'était pas tombé dans le néant, ça se reposait la question. Puis, il n'était plus si sûr de tomber dans le néant. Parce qu'on a une conscience. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette conscience? Elle clame en nous ce que déclare la parole. Après la mort, suit le jugement. De sorte que si on craint la mort, c'est parce qu'on craint le jugement. Alors pourquoi est-ce qu'on craint le jugement? On n'a fait de mal à personne, on n'a pas même tué une mouche, n'est-ce pas? On n'a ni volé, ni tué, ni commis adultère, etc. Enfin, il faudrait encore savoir. Bon, mais enfin, on se console comme ça. On est des braves gens, comme les frères de Joseph. Ils avaient vendu leur frère. Ils avaient menti à leur père pendant 20 ans. Et puis, quand Joseph leur dit, vous êtes des espions. Non, nous sommes de braves gens. D'honnêtes gens. Mais ça, comment on sait oublier ce qu'on est? Nos fautes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur? Eh bien, c'est parce que si vous êtes avec le salut basé sur vos œuvres, vous n'avez jamais de certitude. Parce que, est-ce qu'on en a fait assez de ces bonnes œuvres? Est-ce que vous mettez dans le plateau de la balance vos œufs, puis dans l'autre plateau les péchés? Et puis vous essayez de voir si ça ira. Mais vous n'avez pas de certitude. Alors on n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par la foi. La foi en une œuvre que le Christ a accomplie. Et alors, reconnaissons de ce salut qui nous a été gratuitement donné, la grâce de Dieu nous l'a donné, nous la saisissons, cette grâce, par la foi, et alors nous sommes prêts pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Les œuvres découlent de la foi. Si la foi est vivante, il y a des œuvres, mais ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est la foi en l'œuvre du Christ, qui est un fait qui ne peut pas être des faits comme nous l'avons déjà souligné. Alors Jésus est venu, et puis nos péchés, il les a pris sur lui, parce que tout au fond on a peur de la mort à cause du péché. L'aiguillon de la mort, dit l'Écriture, c'est quoi? C'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Or, Jésus est venu et il a ôté par sa mort l'aiguillon à la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, ta victoire. C'est quelque chose de merveilleux, la parole. Elle nous libère. Alors, maintenant, le jugement qui devait m'atteindre, qui l'a subi? Jésus. Est-ce qu'il est mort pour ses péchés à lui? Il était sans péché. Or, pour mourir, il fallait le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, s'il est mort, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Il n'est pas mort pour rien, il est mort pour vos péchés. De sorte que vos péchés, Dieu ne s'en souvient plus. Ce n'est plus là une question qui doit vous troubler. Si vous avez reconnu que vous étiez pécheur, hein, si vous avez confessé vos péchés, eh bien, le Christ vous dit, je suis mort pour tes péchés. La justice de la loi est satisfaite. Le Dieu trois fois saint, qui ne pouvait pas passer l'éponge sur vos fautes, il est satisfait parce que vos fautes ont été expiées par Jésus-Christ. Le sang du Christ nous purifie de tout péché. Et c'est cela qui nous donne la paix de la conscience. Voilà pourquoi même les païens offraient des sacrifices à Dieu, à la divinité, et plus ils avançaient, plus ils cherchaient une victime pure, et c'est pourquoi ils étaient arrivés au sacrifice des enfants. Mais les sacrifices des enfants, bien, parce qu'on pensait que l'enfant n'avait pas péché, et que c'était agréable à la divinité, eh bien, il fallait plus qu'un enfant. Qu'est-ce qu'il fallait? Le Fils unique de Dieu. L'agneau de Dieu, préconnu dès avant la fondation du monde, pour être manifesté au temps propre et qui allait nous racheter en donnant sa vie. Vous n'êtes pas rachetés de votre vaine manière de vivre par de l'argent ou de l'or. Le salut ne se paye pas avec de l'argent. Quelle que soit votre religion, puissiez-vous lire l'Écriture et comprendre que c'est vrai. Parce qu'alors, ce serait un Dieu injuste. Hein. Pendant toute votre vie, vous faites ce que vous voulez, mais comme vous êtes riche, à la fin de votre vie, eh bien, vous faites dire des messes ou que sais-je encore, vous faites des dons à des œuvres, et puis ça réglerait le compte. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas sur ce principe que nous sommes sauvés. Alors, vous voyez, voilà, j'essaie de vous montrer quelque chose. Nous lisons ce texte de Job. Vous me direz, oui, mais pourquoi est-ce que vous n'y restez pas, etc. Mais de ce texte, nous partons, c'est ce texte qui nourrit nos pensées et qui nous donne des réflexions qui doivent nous aider. La mort n'est plus pour nous le roi des épouvantements parce que Jésus l'a subi pour nous, il a porté le jugement, il a enlevé l'aiguillon de la mort, il n'y a plus de jugement pour nous, hein, dans ce sens-là. Nous serons examinés quant à nos œuvres pour recevoir une récompense ou une perte, mais la question de notre salut ne repose pas sur nos œuvres. Le jugement quant à nos péchés, eh bien, il est passé et il est dit que quiconque croit la parole de Dieu au sujet de son Fils a la vie éternelle. Il n'est pas dit qu'il l'aura, mais qu'il l'a. Qu'il est passé de la mort à la vie et qu'il ne vient pas en jugement. Vous connaissez ce texte, le chapitre 5 de Jean, verset 24e. De sorte qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il n'y a plus de condamnation, plus de séparation. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. C'est si merveilleux. Donc, maintenant nous sommes libérés de la crainte de la mort. Pour moi, vivre c'est Christ et mourir, ben, c'est un gain. Car aller auprès de Christ, c'est de beaucoup le meilleur. La mort a été vaincu. Et celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, a été vaincu par le Seigneur, qui a écrasé la tête, la puissance de Satan à la croix, alors que Satan réussissait à blesser la postérité de la femme, la postérité de Marie, au talon. Alors, Job, évidemment, n'avait pas la connaissance de tout cela, mais on lui présentait la mort comme le roi des épouvantements. Tu peux demeurer dans sa tente, elle n'est plus à lui, le souffle est répandu sur sa demeure. Cet ami lui dit qu'un jour il ne sera plus là, puis que d'autres habiteront chez lui. En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses rameaux se fanent, il le sait bien, le pauvre Job. Son souvenir disparaît de la terre, voilà ce qui t'arrivera, on ne se souviendra plus de toi. Il n'a plus de nom au dehors, il est poussé de la lumière dans les ténèbres, on l'expulse du monde. C'est l'enterrement, on vous expulse du monde, c'est vraiment le traitement que nous avons. Il ne laisse ni enfants ni petits-enfants parmi son peuple, point de survivants dans les lieux qu'il habitait. C'est dégoûtant, proprement dégoûtant ce qu'il dit là. C'est un homme qui a eu 10 enfants tués. Puis on lui dit qu'il ne va laisser ni enfants ni petits-enfants. Vous voyez jusqu'où notre indélicatesse peut aller. Quand, soi-disant, on va pour consoler les âmes, nous devons veiller aux paroles de notre bouche. Il aurait dû se dire, je vais pas en, au moins lui parler de qui ne laisse pas d'enfant, parce que c'est retourner le couteau dans la plaie, vous le comprenez bien. Point de survivant dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine. La génération présente sera saisie d'effroi. Telles sont les demeures de l'homme injuste. Telle est la place de celui qui n'a pas connu Dieu. En arriver là, hein, à avoir cet esprit de jugement et dire de Job que c'est un homme qui n'a pas connu Dieu. Parce que on est tellement sûr de sa religion, on est tellement sûr de sa doctrine, tous les autres sont dans l'erreur. Mais nous, nous défendons les traditions, nous défendons la saine doctrine, la pureté et tout. Alors la réponse de Job, jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos propos? Mais ils sont écrasants, ces propos, ces consolations. Vous trouvez qu'elles sont légères? Elles sont d'une lourdeur effroyable. Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. C'est une expression qui revient assez souvent, 10 fois. Il est inutile d'aller chercher à 10 reprises là, que les amis ont cherché à le confondre. C'est une expression qui revient souvent dans l'Écriture. 10, c'est un certain nombre de fois. Plusieurs fois. Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de me malmener si j'ai vraiment été dans l'erreur? Voilà, il commence quand même à admettre, mon erreur repose sur moi. Si vraiment vous vous élevez contre moi et me reprochez mon déshonneur, bien, tout ça, c'est sur moi. Reconnaissez alors que c'est Dieu qui me fait tort et qui m'enveloppe de son filet. Lui, il pense que Dieu lui fait tort. Si je crie à la violence, nul ne répond. Il a crié vers le ciel et il n'y avait pas de réponse. Si j'appelle au secours, point de jugement. Il m'a barré la route, je ne puis pas passer. Il y a des moments comme ça où il semble que pour nous, eh bien, nous ne pouvons plus avoir contact avec le Seigneur. C'est vraiment la nuit obscure dont parle Jean de la Croix. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers, il m'a dépouillé de ma gloire, il a ôté la couronne de ma tête. Vous comprenez bien que quand vous lisez simplement ce chapitre, si vous n'avez pas lu le commencement de Job, vous ne pouvez pas savoir de quoi il est question. C'est pourquoi j'insiste pour vous dire que la Bible, il faut la lire depuis la première page à la dernière, pas simplement des portions. Parce que si vous ouvrez votre Bible pour lire ce chapitre-là, vous trouverez peut-être un verset qui correspond à un besoin spirituel, mais vous ne saurez pas de quoi il est question. Tandis que vous savez que Job était un grand propriétaire terrien, qu'il était riche, qu'il était peut-être roi, et là, il semble bien, il a ôté la couronne de ma tête. Parce que maintenant, dans la situation où il est, eh bien, il est certainement déposé. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il me renverse de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Puis encore, disait-il, pour un arbre, il y avait de l'espérance. Sa colère s'est enflammée contre moi. Il m'a considéré comme l'un de ses adversaires. Ses troupes surviennent ensemble, c'est tous ses malins. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont établi leur camp autour de ma tente. Tandis que, au début, Satan disait que Dieu l'avait environné d'une et de protection. Tandis que maintenant, Job a l'impression que les troupes qui s'opposent à lui sont autour de sa tente. Il a éloigné de moi mes frères et ceux qui me connaissent se sont dispersés loin de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. C'est tellement vrai, cela. Et quand vous n'êtes plus dans une belle situation. Un jour, j'ai rencontré la femme d'un grand banquier de Monaco et elle m'a dit ceci. Pendant qu'ils étaient riches, pendant que son mari avait cette situation aisée à Monaco, ils étaient reçus dans tous les salons du monde, chez le prince et partout. Et puis, il y a eu une catastrophe, une faillite, et puis c'était fini, et toutes les portes étaient fermées, et elle m'a dit, je l'entends encore, c'était au Valais, au canton du Valais en Suisse, elle m'a dit, Monsieur Racine, puisque vous avez l'occasion de parler à des jeunes, dites-leur que seul Jésus est doux, que le monde est cruel, que le monde est dur, mais que seul Jésus est doux. Le monde vous reçoit quand vous pouvez donner, quand il peut tirer quelque chose de vous. Mais quand vous êtes un citron pressé et qu'on n'avait plus rien, on vous rejette c'est la poubelle. Et c'est vrai, ça, je vois encore cette femme, elle était belle, elle était grande, elle était une femme très bien distinguée. Mais la propriétaire de l'hôtel, la voyant désespérée, elle avait vu que ce que j'étais prédicateur, et c'était une dame catholique, cette personne qui avait cet hôtel, et elle est venue me dire, écoutez monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas aller voir cette dame? Moi j'étais allé là pour ne parler à personne, pour être loin de lésins, des malades et de tout, pour me ressourcer dans le Seigneur. La première chose qu'on vous demande, c'est d'aller parler à une âme. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Oh non, mais moi, je suis pour le Seigneur ici, je faisais une période de jeûne, etc. Et puis le Seigneur nous montre, non, voilà. Les bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et voyez-vous, c'est cela qui nous renouvelle, c'est de voir la main de Dieu dans nos petites circonstances. Parce qu'on n'a pas tellement de grandes choses dans la vie, on a des petites choses. Notre vie est un ensemble de petites choses. Alors, si le Seigneur n'est pas dans les petites choses de votre vie, il n'est pas souvent là. C'est cela que nous devons comprendre. Il faut que le Seigneur soit mêlé à tout. Alors, nous allons plus loin. Les hôtes de ma maison et mes servantes me considèrent comme un étranger. Il avait perdu beaucoup de serviteurs et puis de servantes aussi, mais peut-être qu'il en avait encore une ou deux. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu, n'est-ce pas? Avant, il était le maître et les serviteurs appartenaient au maître en Orient. Mais maintenant qu'il est dans cette situation, eh bien, j'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Il n'est plus dans cette situation où on le craignait. Il est sur le fumier. Le patron sur le fumier. Alors, on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez, je dois le supplier de ma bouche. Puis après, mon haleine est repoussante pour ma femme. La femme est encore là. La femme de Job. Qui lui a dit, maudit Dieu et meurt. Mais le pauvre Job, eh bien, dans sa maladie, eh bien, voilà, ça se sent aussi à son haleine. Il n'avait pas de la gomme. Je suis devenu fétide pour les fils de mes entrailles. Là, c'est la famille, parce que ses fils, il les a perdus. Mais enfin, c'est pour les plus proches qu'il appelle comme ses fils. Même les gamins me rejettent. Si je me lève, ils parlent contre moi. Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur. Vous voyez, on fait le vide autour de lui. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os se sont attachés à ma peau et à ma chair, donc c'est sa maigreur. Je n'ai gardé que la peau des dents, il ne reste pas grand-chose. Hein. On n'a plus que la peau des dents. C'est une expression, c'est un peu hyperbolique. Est-ce qu'il te reste la peau des dents? Ayez pitié de moi, vous mes amis, vous voyez que il les aime encore, mais vous êtes mes amis, alors il n'y a plus personne. Ayez pitié de moi, car la main de Dieu m'a frappé. Lui, il ne sait pas que c'est Satan, il ne voit que la main de Dieu, puis ce Dieu, il l'aime. C'est pourquoi je vous ai dit, Job, c'est un malade d'amour. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu me poursuit? N'êtes-vous pas rassasié de ma chair? Au fond, on le dévore. Il est dévoré par la maladie et puis il est dévoré encore par ses amis. Oh, alors là, c'est merveilleux. Hein? Si mes propos pouvaient être écrits, eh bien son souhait a été réalisé et nous sommes en train de les lire. C'est fantastique, hein, la Bible. Hein? Si mes propos pouvaient être écrits, ça pourrait peut-être encourager quelqu'un. Ça pourrait servir 12 ans avant l'an 2000. Si mes propos pouvaient être écrits. S'ils étaient gravés dans un livre. Et oui, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, ils soient pour toujours taillés dans le roc. Puis alors, tout à coup, il y a comme un éclair. mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Comme c'est beau. Voilà notre Job qui a comme une visitation de l'Esprit, et il confesse donc avant Moïse que le Seigneur est vivant. Et non seulement cela, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Qui est-ce qui aura le dernier mot en final? C'est Dieu, le juge. Alors là, nous pourrions entrer dans les questions prophétiques. Après que ma peau aura été détruite, ça on le sait, hein, il n'y a pas d'espoir de garder toujours sa belle peau, malgré toutes les lotions, après que ma peau aura été détruite, moi-même, en personne, on a traduit « de ma chair » dans d'autres versions. « Je contemplerai Dieu. C'est lui que moi, je contemplerai. Que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. C'est pour lui comme une certitude qui entre dans son cœur. Que même, une fois mort, il aura après la certitude qu'il verrait le Seigneur. Et quand est-ce que c'est que nous apprenons par les Écritures que nous verrons le Seigneur et que nous lui serons rendus semblables, nous le verrons comme il est, quand il revient pour prendre à lui les siens, n'est-ce pas? Alors les morts ressuscitent, premièrement, puis nous les vivants, nous sommes changés et nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Nous lui serons rendus semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Est-ce que vous languissez après ce moment? Le cœur de Job languissait après ce moment. Il a la première lumière au fond de la résurrection. Et ce sentiment sera donné à qui? À un autre patriarche. Il n'y avait pas de révélation concernant une résurrection. Mais Abraham, et qu'est-ce qui lui a donné d'arriver à cette idée d'une résurrection? C'est une épreuve. Son fils lui est redemandé. Et c'est ça le résultat de l'épreuve. C'est pour ça que je vous demande de méditer sur Abraham. Abraham, qui a attendu si longtemps, a été visité par Dieu. À 100 ans, il a son fils. Et puis maintenant que son fils a une vingtaine d'années, eh bien Dieu lui dit, prends ton fils, ton Isaac, celui que tu aimes, et c'est pas Ismaël, hein, et conduis-le sur la montagne que je te dirai, et offre-le en holocauste. Abraham obéit, mais il est tellement bouleversé, et c'est dans l'Épître aux Hébreux que nous apprenons ce qui s'est passé dans son cœur, qu'il est arrivé à cette certitude que s'il devait aller jusqu'au bout dans le sacrifice, Dieu le lui redonnerait par une sorte de résurrection. Il ne sait pas ce que c'est, mais il arrive, et c'est ça que produit l'épreuve. L'épreuve nous amène à certaines révélations que nous n'aurions pas en dehors de l'épreuve. Voyez-vous, c'est dans la souffrance qu'on apprend le plus. Alors, soyez réconciliés d'avance avec tout ce qui peut vous arriver. Dieu n'est pas contre vous. Il est pour vous. Lorsque vous direz pourquoi le poursuivons-nous, alors on découvrira le bien fondé de ma cause. Donc, il pense qu'il y aura un jugement, oui. Et là, on pourrait entrer dans les questions prophétiques. Après la résurrection, il y a le jugement. Craignez pour vous l'épée, hein, parce que c'est par l'épée que le Seigneur amènera la justice et la paix sur la terre. Il est venu une première fois pour ôter les péchés, mais il revient une seconde fois pour établir son règne. Car les châtiments par l'épée sont terribles. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais aujourd'hui, si vous entendez son sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, et alors vous tombez dans ses bras. Vous devez reconnaître qu'il y a un jugement. Alors là, on arrive en plein dans l'évangile. Nous allons nous arrêter. Pour demain, je vous demanderai de lire les chapitres 20 et 21. C'est le discours de Sophar, le troisième, et la réponse de Job qui terminera donc le dernier cycle, le deuxième cycle de ces discours. J'ai bien conscience que nous n'avons fait qu'effleurer quelques vérités, mais je vous demande, relisez ces textes, repassez-les dans vos cœurs, demandez à Dieu de vous les illuminer. Il le fera. Encore une fois, oh notre Dieu, nous ne voulons pas nous séparer sans être mis entre tes mains, et nous te demandons de continuer de nous parler dans le silence de nos chambres, de nos tentes, et que tu nous amènes vraiment à ce dévoilement dont nous avons tous besoin. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux nous montrer de personnel qui peut complètement transformer notre vie. Et si nous sommes ici, ensemble, c'est parce que tu veux nous bénir. Et tu nous dis toujours que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Que nous puissions vivre cette fin comme Job a pu la vivre après toutes ses épreuves. Tu nous dis dans ta parole, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui réservait. Tu nous enseignes que Job a su attendre. Il a eu ses moments d'impatience. Pendant longtemps, tout lui était voilé. Mais tout à coup, il a pu dire, après t'avoir entendu, quand toutes les voix humaines se sont tues, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qu'il en soit ainsi de chacun de nous. Et que dans une vraie repentance, nous puissions trouver tout ce que ton cœur veut nous donner. Une fois que nous aurons vidé le nôtre de toutes ces vanités qui nous empêchent de connaître la vraie joie et la plénitude. Donne-nous un cœur entièrement vide de nous-mêmes.